mauvais embrun d'humeur. Vendredi 21 et samedi 22 décembre 2012. Auditeurs en vacances, bonjour. Si, une bonne partie de la population est en vacances à partir de ce vendredi soir. Et pas n'importe quelle vacances, les vacances de Noël. Noël et son cortège de grosses et bonnes bouffes et de cadeaux partout. Noël et ses prêts à la consommation. Noël et sa frénésie de lumière consumériste et de remises payées l'année prochaine. Et donc finalement, Noël et ses gueules de bois. Ben ouais, l'année prochaine finit quand même toujours par arriver. Bon, sincèrement, les soirées de bombance trop arrosées qui mènent à la gueule de bois, moi, j'aime bien. Partager des plats rares avec les gens que j'aime, j'aime bien aussi. Simplement que tout ceci soit quasi obligatoire pour tout le monde au même moment, ça m'enquiquine un petit peu plus. Et qu'il faille faire semblant de croire que tout ça a à voir avec la naissance de je ne sais quel sauveur finit de m'énerver bougrement. Finalement, ce fait divers d'il y a quelques jours qui défraya la chronique n'était pas si rocambolesque que ça. Ouais, je veux parler de cette école ayant annulé la visite du Père Noël pour raison de laïcité. Vous n'avez pas vu cette affaire. C'était à Montargis, dans le Loiret, où une directrice d'école prétendait avoir annulé la traditionnelle visite du Père Noël pour des raisons de laïcité. La polémique a enflé, certains prétendant que c'était sous la pression de quelques dizaines de familles musulmanes que la directrice avait ainsi réagi. Or, chers auditeurs, nous le savons bien, le Papa Noël n'a strictement rien à voir avec la religion, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait rien à voir avec la laïcité. L'école a été voulue laïque par la République pour protéger l'espace éducatif et donc les enfants de tous les dogmes pouvant brider leur libre arbitre et leur liberté de conscience dans les apprentissages. Ainsi, à l'instauration des lois scolaires en France, dans les années 1880, les forces dogmatiques menaçant le libre arbitre venaient bien des églises. C'est donc d'elles que la laïcité s'est méfiée à cette époque. Mais qu'est-ce qui menace aujourd'hui encore un peu plus chaque jour le libre arbitre de nos enfants? La religion? Peut-être dans quelques milieux minoritaires, et encore. Par contre, la consommation à tout va et la dictature des marques, là, oui, menacent quotidiennement la liberté de conscience de nos enfants. Et quel meilleur symbole de la frénésie consumériste que ce vieil arbedonnant créé par Coca-Cola? Ben aucun. Ainsi donc, l'enseignante de Montargis avait raison de refuser le Père Noël pour des raisons de défense de la laïcité. Non pas vis-à-vis de je ne sais quelle chimère religieuse, mais pour protéger les enfants de ce symbole de la société de consommation, qui, comme on le sait, et comme l'ont écrit et chanté ceux qui vont suivre juste après ces mots, la société de consommation produit des cons sans sommation. Mais là, il nous chante tout à fait autre chose, il s'agit de groupe gardois, L'Homme parle.
Sans une thune, on aura pour nous la bohème. On décrochera peut-être pas la lune et on se noiera dans nos poèmes. Après tout, on est peut-être que des grands utopistes. On voit des fleurs sur le bitume et dans notre cœur dort l'artiste. Que dira mon fils, on n'a jamais voulu tout ça. L'air du temps sans l'artifice et respirer est un combat.
Les belles promesses ont fait naufrage. En attendant que s'apaise l'orage, les soleils rouges sont à la page. Les vois-tu venir derrière les nuages? On frappe à la porte mais y'a plus personne. De nos voix les emportent. Quand le glas du monde sonne, on guette le bonheur à chaque coin de rue. Dans les vers slamés des poètes disparus.
Escuchas la révolution, una lucha por la razón. Esperanza del corazón, empieza con esta canción.
Qu'on a fait demain, on fait des plans sur la comète. Mais on n'en sait rien, si le futur est incertain. On garde de l'espoir au creux de la main. Qu'on a fait demain,
prison, y'en a qui courent après le pognon. Nous on en fait des chansons, c'est la balade du roi des cons. C'est la faillite, chez les vendeurs de rêves. Alors on chante et on milite, il faut bien que le soleil se lève. Une petite lueur d'espoir, même si la révolution, pour beaucoup d'entre nous, c'est juste gagner à l'euro million. Quitte à se brûler les ailes, on allume des feux de poubelle. Trouve les mots pour le dire, on veut le meilleur, on a le pire.
Y'a plus d'aristocrates à pendre à la lanterne, mais des parties de technocrates qui trinquent à notre santé au sauterne. Le cœur de l'homme en friche, un beau sourire à l'affiche. Je fais semblant d'être heureux, mais de toute façon, le beau monde s'en fiche. Victime du hasard, dans notre armée en déroute. On cherche les yeux hagards, une raison à tous nos doutes. C'est la chute finale, on dort mon mouille demain. Le capitalisme sera le genre humain.
Escuchas la révolution, una lucha por la razón.
Si un jour cette flamme s'éteint, faites que se relève le genre humain.
Ensuite, sentez-vous comme nous respirons mieux depuis quelque temps? Non? Si, si, si. Inspirez profondément. Vous sentez cette soudaine odeur de pureté et de fraîcheur? Comme si une source de pourriture persistante avait soudainement disparu de notre environnement, laissant libre cours aux odeurs de fleurs, de la délicatesse, de la beauté. Ça y est, vous sentez la différence? Ben ouais, ça me le fait à moi aussi et j'en profite. Je respire, je hume, j'inspire puissamment. Mais ce plaisir m'est un peu gâché quand je pense qu'au même moment, l'air de mes amis belges s'est vu un peu plus pollué. Parce que, vous avez bien compris, si on respire soudain mieux en France, c'est de ne plus partager notre air avec ce gros con incomparable dans la bêtise de Gérard Depardieu. Il est parti, tant mieux. Il veut nous rendre son passeport, tant pis, c'est pas possible légalement. Sinon, on l'aurait récupéré avec plaisir pour l'exposer au musée des horreurs. Il veut aussi nous rendre sa carte de sécu, prétendant qu'il ne s'en est jamais servi. Comme le relevait Libé lundi dernier, il serait assez surprenant que, collectionnant les accidents de la route, le gros n'ait jamais eu accès à des soins remboursés. Ce qui ne me demeure normal, d'ailleurs, pour tout contribuable. Simplement, maintenant exilé en Belgique pour raison fiscale, qu'il garde sa carte de sécu. Mais par contre, comme on interdit les joueurs invétérés de casino, interdisons Depardieu des hôpitaux français. Et qu'il vive sa vie en Belgique sans nous emmerder. On trouvera bien d'autres gros contribuables pour payer l'impôt, parce que, au risque de me répéter, il n'y a pas plus républicain et démocratique que l'impôt. Tiens, allez, en passant, quel texte de loi le premier parle de l'impôt? Hein, un méchant texte napoléonien, une scélérate directive royaliste? Non, mes amis, que nenni. Le premier texte de loi français à parler d'impôts au sens républicain du terme n'est autre que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 13. Article 13, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. Eh oui, messieurs, dames, la Déclaration des droits de l'homme. Alors, la liberté de penser de Pagny, le passeport de Depardieu, et toutes les conneries de tous ces mange-merdes, vous imaginez bien où on se les met.
C'est le tango des mange-merdes qui viennent se remplir la gamelle, qui sont prêts à tous les tracas pour ne pas manquer le foie gras, qui choisissent le camp qui gagne pour ne pas manquer le champagne.
Pour ne pas manquer de champagne.
C'est le tango des mange-merdes, sans qu'on convictions naturelles qui se reconstruisent un avis pour satisfaire leur appétit. De strass, de paillettes, de pouvoir, de millésime et de caviar.
De millésime et de caviar.
C'est le tango des mange-merdes. Ministre d'État ou gazelle qui passe sans hésitation de la gauche à la réaction. Pour les plaisirs, pour les délices, une limousine de service.
Une limousine de service.
C'est le tango des mange-merdes. Goulu gourmand, il s'en délecte. Se vautre dans les excréments, reniant tous leurs engagements. En pataugeant dans le bourbier, vilain qui règne à l'Élysée.
Vilain qui règne à l'Élysée.
C'est le tango des mange-merdes. Voudrait bien qu'on désespère, qu'on s'occupe plus de politique, qu'on leur laisse palper le fric, et qu'on cautionne par lassitude leur trahison, leur turpitude.
Leur trahison, leur turpitude.
C'est le tango des mange-merdes, qu'on chante encore, ça les emmerde. Alors je gueule à plein poumon, et pour aider leur digestion, pour les aider à avaler,
à tous je leur pisse à l'arrêt.
À tous il y a pisse à l'arrêt.
Les Merles au cœur avec Claude Delrieux à l'accordéon. Il y a ensuite le pari de la semaine, mais qui est un pari forcément gagnant, qui est de se foutre de la gueule de la fin du monde prévue ce vendredi, et surtout de tous ceux qui y croient et agissent en conséquence. Pourquoi forcément gagnant le pari? Parce que cette émission est diffusée le vendredi et rediffusée le samedi. Autrement dit, si je me moque là, maintenant, de cette pseudo-fin du monde qui n'aura pas lieu, et que vous m'entendez me moquer, c'est que j'ai forcément raison. Sinon, vous seriez tous crevés et vous n'entendriez pas cette chronique. À l'inverse, si, scénario peu probable, la fin du monde a bien lieu, nos problèmes non plus. Vous êtes tous crevés, moi aussi, personne pour entendre ma voix dans le poste, et donc personne pour me faire passer pour un con. Pari gagnant à tous les coups, je vous dis. Tiens, l'histoire du pari gagnant à tous les coups, ça me fait penser à une excellente blague de Coluche. Mais bon, y a le mot couille dedans. Je sais pas si je peux la dire avec tous les enfants qui écoutent peut-être à cette heure-ci, s'ils sont pas tous morts. Tiens, du coup, les voilà vachement attentifs, les enfants. David, monsieur Lefébure, tu crois que je peux raconter une blague avec le mot couille dedans ou pas? Ah ouais, pas de réponse, il se mouille pas le garçon. Bon, je me lance, on verra bien, hein. Je pourrais dire testicule, voire même gonade à la place, mais ça fait pas pareil. Donc, voilà, c'est un mec plein aux as, alors qu'officiellement il est chômeur, qui voit débarquer un jour chez lui un inspecteur des impôts. Tiens, en plus, cette histoire a fait le lien avec le premier sujet. Et l'inspecteur des impôts qui va le voir, qui dit, ouais, comment ça se fait? Normalement, vous touchez très peu d'acédic. Là, vous roulez en Ferrari, vous êtes plein aux as. Comment vous faites pour gagner autant d'argent? Alors, l'autre le regarde, il dit, ben, c'est pas très compliqué, je fais des paris et je gagne toujours mes paris. Je peux pas vous croire, lui dit l'inspecteur des impôts. Il faudrait que vous me le prouviez, ça. Et le mec, il le regarde, il lui dit, bon, ben, d'accord, je vous parie 10 000 euros. Que vous avez les couilles carrées. Bien sûr que non. Attendez, si vous voulez me dire que c'est pas vrai, moi je demande à ce que ce soit vérifié par un huissier. L'inspecteur des impôts, il dit, y a pas de problème. Donc, ils prennent rendez-vous, ils se pointent devant un huissier, et puis là, effectivement, l'inspecteur des impôts baisse son pantalon, son calbute, l'huissier vérifie, lui t'attend les gonades donc, et dit, ah non, je suis désolé, hein, mais il a les couilles rondes comme tout le monde. Ah, et là, l'inspecteur des impôts lui dit, ah, vous voyez bien, vous avez perdu 10 000 euros là. Et il dit, oui, mais j'avais aussi parié avec l'huissier qu'il toucherait les couilles d'un inspecteur des impôts un jour. Et ouais, il fallait y penser. Sinon, sur cette affaire de fin du monde, il y a un autre truc qui me fait bien marrer, moi. Vous savez, dans les petites bourgades rurales, contrairement aux bourgs-centres et autres métropoles, ça se bouscule pas au portillon pour prendre des responsabilités électives. Ben ouais, dans les petits villages, la balance entre le montant des indemnités et la somme d'emmerdement penche sérieusement du côté des emmerdements. En grande ville, les emmerdements augmentent, mais l'indemnité aussi. Et le nombre de personnel technique pour gérer les merdes, encore plus. Alors voilà, ce qui me fait marrer, c'est que sur les 196 Bugarachois recensés en 2009, donc à Bugarache, il y en a forcément un ou une, j'en sais rien, j'ai pas été voir, qui a fini par accepter d'être maire de la commune. Je vois bien, pour le convaincre, ses administrés lui dire des trucs du genre « T'inquiète pas, c'est cool, Bugarache, que du quotidien à gérer, deux, trois chemins communaux, un centre de village à entretenir, et voilà, c'est fini !» Quelques années plus tard, le pauvre type se retrouve avec la plus grande concentration d'allumés en tout genre possible sur Terre. Sérieux, c'est quand même pas de bol. Sérieux, c'est quand même pas de bol. La fin du monde. Tenez, j'entends déjà les cloches du diable qui sonnent. Ça s'approche. classique d'AC/DC, Hell's Bells. On est bien vendredi 21, et si vous n'avez pas la fin du monde, vous aurez quand même eu les cloches de l'enfer pour vous rappeler que ça peut arriver. Sinon, dans l'actualité locale, nous avons aussi les déboires du club de rugby ruthénois qui n'arrive pas à boucler son budget. Déboires remédiatisés cette semaine suite à la décision du conseil d'agglomération de Rodez de refuser la subvention exceptionnelle de 120 000 € demandée par le club. Entendons-nous bien, j'aime bien le rugby et je connais pas en détail la situation du SRA. Je ne sais pas si le projet du club valait que l'aglo rallonge 120 000 €. Tiens, en passant, le projet du club. Vous avez vu que tout le monde a des projets maintenant. Même un club de rugby doit avoir un projet pour avoir des sous. Ça suffit pas de faire courir des gamins après un ballon, il faut mettre de la citoyenneté et du vivre ensemble là-dedans, sinon c'est pas finançable. Bon, moi je dis ça juste en passant, hein, parce qu'il y en a un peu marre d'être obligé d'avoir des projets de partout pour avoir 3 sous. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long à démonter. Pour en savoir plus sur cette dictature du projet, je vous conseille de trouver ce que Franck Lepage raconte sur le sujet sur Internet. Tapez Lepage et projet sur n'importe quel moteur de recherche et vous trouverez en vidéo le détail de la réponse. Il y a aussi cette fameuse affaire de Laurent Ruquier et ses sbires qui appellent Rodez pour connaître la couleur de la cathédrale. Vous avez pas vu ça? Alors, voilà. C'était sur Europe 1, l'émission de Laurent Ruquier, qui s'appelle je sais plus comment, et je m'en fous un peu d'ailleurs. Et entre Ruquier et ses jeux de mollets pour Jean Bette, oui je sais, celui-là, il est plus qu'éculé. Bigard, qui était invité ce jour-là, sa finesse légendaire et ses réflexes antifonctionnaires épidermiques. L'ineffable Stevie, lui aussi invité, philosophe UMP autoproclamé. On avait que du lourd dans cette émission. Bon, les voilà, qui appellent la mairie de Rodez, la bouche en cœur, pour savoir si la cathédrale de Rodez est bien rouge, comme l'avait dit un certain Bénichou. Ça donnait à peu près « Bonjour, c'est Laurent Ruquier en direct sur Europe 1, on voudrait juste savoir de quelle couleur est la cathédrale ». Là, tu imagines la standardiste de la mairie, qui oscille entre deux attitudes possibles. La première, c'est de penser qu'elle a affaire à un canular, et de vouloir se débarrasser au plus tôt du casse-couille. Oups, encore couille dans les mots, bon pardon, désolé. La deuxième attitude est de croire que c'est bien Ruquier au téléphone et de se dire « Nom de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour que ça me retombe pas sur la gueule ?» Et elle avait bien raison de penser ça, vu le buzz que c'est en train de faire, ça va lui retomber sur la gueule. Dans les deux cas, la question de savoir de quelle couleur est la cathédrale est bien secondaire pour la pauvre fille. Et puis, je vais vous dire un truc, cette posture de people parisienne se foutant de la gueule du plouc provincial m'est totalement insupportable. Surtout quand la seule légitimité d'un des participants, encore ce fameux Stevie, est d'avoir participé à l'émission la plus conne du PAF, j'ai nommé Love Story. Stevie qui, pour illustrer sa fulgurance philosophique d'avoir vu dans le standard de la mairie de Rodez une allégorie de la société française, il l'a pas dit comme ça, je vous rassure, il connaît pas tous ces mots. Donc pour illustrer ça, il nous parle du syndrome rodésien. Et connard, connard, c'est ruthénois l'adjectif. En passant, contrairement à l'info donnée par les cafés ruthénats, torréfacteur et pas bistrot, imbécile de parisien. Donc contrairement à ce qu'ils ont dit, Bénichou avait raison, la cathédrale est bien rose. Ce que l'on voit sur les photos au premier coup d'œil en cherchant sur le net, ils savent même pas chercher sur le net à Europe. Putain, je suis pas nationaliste, encore moins régionaliste, mais j'espère sincèrement, et il y a de fortes chances, que le restaurant habituel de Ruquier et de sa bande est tenu par un Aveyronais. Rodésien, ça serait le top. Allez, intoxique-les, bougna, et qu'on n'en parle plus. Ça m'a énervé. On se quitte là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de boire des coups, de faire des câlins et de traquer la connerie. Et on se quitte avec Ariane Moffat, chanteuse québécoise que personnellement j'ai découvert sur CFM. Peut-être vous connaissiez depuis longtemps, mais on se quitte avec ça. À la semaine prochaine. Le garder vivant.